Voyager, aller sous d'autres cieux, semblerait-il, pour réussir, bénéficier d'un avenir meilleur, a toujours été l'apanage de bon nombre de Congolais. D'autres cieux, c'est toujours l'Eldorado, donc pour d'autres, pardon, d'autres cieux, c'est toujours l'Eldorado pour les Congolais surtout. Ainsi, la communauté congolaise se retrouve présente partout dans le monde. En Suisse, par exemple, notamment à Lausanne, les uns y sont arrivés depuis plus de 20 ans et se battent tant bien que mal pour mener une vie décente. D'autres, par contre, sous le statut des réfugiés, continuent à errer sans objectif précis et regrettent d'avoir quitté leur pays d'origine. Comment ces ressortissants congolais s'organisent-ils à Lausanne ? Réponse à cette question avec notre conseiller Nicole Ngaka qui a effectué un long déplacement de Lausanne, donc à plus de 8000 km, si je peux me dire, c'est merci. Alors Nicole nous fait la restitution. Bonjour Nicole.
Bonjour JR.
Alors vous avez effectué une mission de service dernièrement en Suisse. Et comment cela s'est passé concrètement ?
Très bien JR, nous avons pu être en contact avec des journalistes suisses et d'autres journalistes africains parce que, voyez-vous, dans le cadre d'enquête d'Afrique, un projet qui s'est concrétisé depuis l'année 2007 grâce à la Fondation Rambel et d'autres bailleurs de fonds, des reporters suisses et africains travaillent ensemble. Alors une fois les duos constitués, les journalistes se mettent d'accord sur un sujet d'enquête et de reportage. Cette année, un thème a été choisi pour l'ensemble des reportages que nous avons réalisés en Suisse et à Kinshasa, c'est-à-dire l'eau, l'année 2008 ayant été choisie par les Nations Unies comme année de l'eau.
Et pendant votre séjour en Suisse, Nicole, vous avez pu aussi rencontrer certains de nos compatriotes qui sont en Suisse depuis des années. Et comment vivent-ils ?
De prime abord, je répondrai que pour ceux qui sont réguliers, autrement dit, qui ont tous les documents en ordre, carte de séjour ou encore la nationalité suisse, ils vivent bien. Mais JR, ils doivent travailler dur pour nourrir leur famille. Il y a des gens qui font deux métiers à la fois. Il faut reconnaître que le coût de la vie est très élevé en Suisse. Pour la plupart des Congolais que j'ai eu à rencontrer, ils exercent des métiers nobles comme aide-soignante, infirmier, chauffeur ou encore contrôleur de bus. D'ailleurs, je vous invite à suivre cet entretien que j'ai eu avec Célio. Célio, lui, parle de son métier de contrôleur en Suisse. Il est Congolais et se présente d'ailleurs sous son vrai nom. Suivez.
Voilà, oui, je suis contrôleur dans les bus, dans les transports publics, ouais. Exact.
Donc vous montez à bord des bus ?
Je monte, je contrôle les types de transports, je verbalise ceux qui n'ont pas des types de transports, des tickets comme on dit, et puis voilà quoi. Mais contrôleur en Suisse, ça n'a rien à voir avec contrôleur au Congo. Ici, c'est quand même un métier très valorisant. Je suis fonctionnaire, je suis un homme de loi, voilà. Je fais appliquer la loi.
À Kinshasa, le métier de contrôleur.
Non, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Ici, c'est très honorant. Bon, à Kinshasa, c'est une quoi, voilà.
À Kinshasa, on dit la Kinshasa docs now.
Ici, c'est bonjour, monsieur, dame, billet ou abonnement, s'il vous plaît. Voilà.
Très poli.
Ouais, voilà.
Et ça vous arrive parfois d'attraper des gens qui n'ont pas payé le ticket ?
Souvent. Très souvent. Et les problèmes, on serait étonné. Les problèmes, c'est plutôt avec mes, entre guillemets, frères.
Pourquoi entre guillemets ?
J'ai dit entre guillemets parce que frères comme tel. C'est faux parce que par respect pour mon travail, je suis le premier contrôleur noir, comme j'avais dit avant, et par respect pour moi, pour mon travail, beaucoup de compatriotes que je suis. Compatriotes, même pas, mais des Africains, que j'ai contrôle senti de transport, ils aimeraient que je les laisse, que je verbalise pas. Alors, c'est clair que vis-à-vis des blancs qui sont à côté, c'est pas juste. Moi, je suis juste. Noir, blanc, gris, jaune, c'est la même chose. On a ou on n'a pas. Moi, je taxe. Voilà.
Voilà, c'est Célio qui parlait. Alors Célio est fier de son travail et garde un esprit qui doit être correct vis-à-vis de tout le monde. C'est depuis quand qu'il est en Suisse, Nicole ?
Bon, il m'a dit qu'il est arrivé en Suisse depuis 1981. C'était à Lausanne qu'il était là. Alors bon, après avoir fait des études à l'ISTA, ici à Kinshasa, il n'a pas pu trouver du travail, raison pour laquelle il a préféré aller ailleurs, notamment en Suisse. il habitait ici à Kinshasa-Kalamo, mais il faut reconnaître qu'il est, comme il l'a dit lui-même d'ailleurs hier, il est parmi les premiers contrôleurs noirs à Lausanne, et parmi les premiers, hein, je crois, congolais à arriver en Suisse. Donc lui, il a eu quand même beaucoup de chance. Hein.
Oui, c'est quand même un privilège pour un Congolais de faire un métier noble de ce genre, librement, et puis avec considération du blanc, sans racisme. Il vit avec toute sa famille ici, là-bas, Nicole, est-ce que vous avez une idée?
Oui, il vit avec toute sa famille, il me l'a dit, hein. Il a pu faire venir toute, en fait, presque toute sa famille, élargie, du moins, en Suisse. Et on va d'ailleurs l'écouter, parce qu'il nous a expliqué un peu comment il en est arrivé là.
J'ai mes frères et soeurs aussi, entre autres un de mes frères qui est, moi je suis le premier contrôleur noir comme j'avais dit, et le premier policier noir, c'est aussi, c'est mon petit frère aussi. Donc j'ai un grand frère ici, plein de petits frères et petites soeurs. En fait, vous dites que toute ma famille est ici.
Ah, vous avez pu faire venir toute votre famille ici. Ah,
je crois
que vous êtes très connu là.
Oui, mon père il est en France, ma mère est décédée et puis toute la famille ici. J'ai une soeur qui vient ici. Voilà. Donc deux soeurs, une à qui vient à ma tête. Voilà.
Vous, premier contrôleur africain, congolais.
Oui.
Votre
moi.
Frère. Oui.
Ouais.
Votre frère, premier congolais, policier,
oui.
Noir aussi.
À Lausanne aussi. À Lausanne, oui.
Comment êtes-vous arrivé là pour émerger? Parce que souvent, on sait que les Africains, les Congolais sont souvent critiqués. Mais vous, vous exercez des métiers nobles ici en Suisse.
Oui, nobles, on peut le dire. C'est-à-dire, c'est parce que je me suis mis dans la peau de quelqu'un d'ici. Je me suis mis à l'aise. Pour me sentir à l'aise dans ce pays, faire comme les gens d'ici veulent. Je viens d'ailleurs, mais je veux vivre comme les gens d'ici. Et puis c'est clair que les gens, ils les ressentent et puis ils me rendent bien, voilà. Alors c'est du fait quand mon frère est venu, j'ai laissé venir et puis je lui ai donné des directives pour bien vivre dans ce pays.
J'ai comme l'impression que vous avez pu voyager à bord d'un bus, hein.
Avec oui,
bus,
oui.
Réalisé dans un bus ou dans un métro.
Vous l'avez remarqué.
Et j'ai senti comme si elle passant.
Oui.
J'étais un tout petit peu en regard par rapport à ce que.
Il est bien connu, hein.
Très bien connu,
les gens le saluent facilement et.
D'accord.
On l'aime bien. On l'aime
alors,
bien.
Alors, on va poursuivre notre entretien, Nicole. Lui, il a eu beaucoup de chance, car il faut reconnaître que bon nombre de Congolais, surtout les requérants d'asile, n'arrivent pas aussi facilement à s'installer dans un pays étranger. Hein.
Vous l'avez dit, c'est vrai, j'ai juste un exemple en Suisse, le centre d'accueil de requérants d'asile de Vevey, c'est un des cantons de la Suisse, devenu depuis 2008 établissement vaudois d'accueil des migrants, IVAM, reçoit plusieurs requérants dont la demande a été refusée et de non-entrée en matière, qu'on appelle NEM. Aux dernières nouvelles, ils étaient près d'une cinquantaine d'hommes et de femmes célibataires. La plupart sont des Africains, quelques-uns viennent de l'Europe de l'Est. Hormis celle, la situation des clandestins, il n'y a pas de situation plus précaire. Lorsque nous étions là-bas, hier, il y a deux semaines, nous avons appris qu'ils étaient 607 requérants à vivre selon ce régime, alors que la population de requérants dans le canton de Vevey, la ville en question, est de 4297 personnes.
Est-ce que vous avez pu rencontrer des requérants d'asile de cet établissement?
Malheureusement, compte tenu du temps, hein, on n'avait qu'une semaine, pratiquement, 10 jours. On n'a pas pu les rencontrer, on avait sollicité cela, mais bon, on n'a pas pu avoir le temps, l'occasion. Mais nous avons pu néanmoins parler avec un ancien requérant d'asile qui a bien voulu nous raconter son parcours en Suisse. Il s'appelle Roger Lusamaki, peut-être que vous le connaissez, c'est un ancien journaliste de profession en RDC. Alors, nous vous invitons à suivre vraiment ce qu'il nous a dit à ce sujet.
Je suis arrivé en Suisse en 2001 parce que j'avais rencontré des problèmes au niveau du pays là-bas. Comme vous le savez et que vous les vivez vous-même personnellement, il s'est posé un problème de respect des libertés d'expression au niveau de la République démocratique du Congo. Et c'est suite aux difficultés que j'ai connues sur place que j'ai dû en fait prendre la décision de m'exiler pour venir demander l'asile dans un pays qui respecte les droits de l'homme.
Donc vous êtes exilé politique?
Oui, je suis exilé politique.
Ça fait combien de temps?
Je suis arrivé ici en 2001, donc aujourd'hui nous sommes en 2008, ça fait 7 ans que je suis dans ce pays.
Comment êtes-vous arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous demandiez l'asile ici en Suisse?
Disons que, pour faire bref, j'avais été inquiété au niveau de la République démocratique du Congo. Là, je peux avoir la possibilité de voyager. Je suis arrivé ici et j'ai demandé l'asile. Alors, il y a eu, en fait, des vérifications d'usage, comme on dit. Et comme la Suisse est un pays, en fait, qui est cité parmi les pays qui ont le plus de droits, enfin, qui ont la loi d'asile, les lois d'asile parmi les plus restrictives d'Europe, ça a pris du temps pour qu'on reconnaisse mon statut, mais puis finalement, mon statut a été reconnu sur base des documents authentiques et irréfutables que je présente auprès des autorités helvétiques.
À Kinshasa, vous étiez également journaliste?
Oui, à Kinshasa, j'étais journaliste et j'étais également directeur de publication du journal Forum des As. Je profite de cette occasion que vous me donnez de dire bonjour à toute la rédaction du Forum des As et je pense bien à eux.
Je vous suis certainement en ce moment. Alors, parce que là, quand on parle de la vie politique, on a l'impression que souvent, ce sont des histoires inventées, vous n'avez jamais été inquiété et que bon, pour aller dans un autre pays et vivre en paix, vous inventez une histoire. Qu'est-ce qui nous garantit que ce que vous dites est vrai?
Et parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai présenté des documents authentiques et irréfutables auprès des autorités helvétiques. Elles ont mené des enquêtes sur place et se sont basées en fait de résultats obtenus au niveau de ces enquêtes-là et également au niveau de preuves que je leur ai présentées ici qui sont arrivées à la conclusion qu'elles étaient effectivement inquiétées. Donc mon cas, en fait, ne rejoint pas les cas en fait, d'autres cas en rapport justement avec les demandes d'asile. Et si je voudrais dire, il faut absolument éviter de faire l'amalgame, c'est vrai, il y a de ce compatriote-là, quand ils arrivent ici pour essayer de se faire une place au soleil, ils demandent l'asile politique, ils inventent des histoires, mais il y a aussi des compatriotes qui sont effectivement inquiétés en République démocratique du Congo, et quand ils arrivent ici, ils présentent également leur situation. Je vous dis toujours, il faut éviter de faire l'amalgame, il faut toujours faire la part des choses au niveau des demandes d'asile. Mmh.
Voilà, nous avons déjà en ligne notre invité, Emmanuel Marendez, porte-parole d'établissement vaudois d'accueil et des migrants suisses. Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous allons vous retrouver dans quelques instants. Il est temps pour nous de finir ce point que nous sommes en train de faire avec notre consoeur qui a mené ce reportage en Suisse lors de son dernier passage à Lausanne. Nicole, mais comment ce monsieur a-t-il vécu ces instants de requérant d'asile?
Roger Lussamaki, c'est son nom, JR, nous a dit que ça n'a pas été facile pour lui. Mais heureusement pour lui, il a fini par avoir gain de cause. Vous invite encore une fois à suivre son témoignage à ce sujet.
Si en fait, ce n'est pas un centre de réfugiés, un centre pour les demandeurs d'asile. Alors, là, vous séjournez pendant X temps, et puis après, si le système tel qu'il est appliqué ici, on vous oriente vers un canton déterminé.
Mm-hmm.
Et quand vous arrivez dans ce canton-là, vous vous présentez au niveau de l'organisme qui est chargé de recevoir les demandeurs d'asile, qui vont vous envoyer dans un foyer pour demander l'asile, et puis après, vous attendez la réponse que vous avez introduite.
Pour votre cas, vous avez séjourné là-bas pendant combien de temps?
J'ai séjourné là-bas pendant au moins 5 jours. Mais généralement, les séjours au niveau du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, c'est 2 semaines. Alors maintenant, encore comme ils ont durci la loi sur l'asile, ça devient encore plus. Je vais faire même un mois dans ce centre-là.
Pour votre cas, parce que là, les auditeurs nous suivent sur Radio Capi, ça s'est passé comment? Ça ressemble à une prison? Ça ressemble à quoi exactement, un centre pour demandeurs d'asile? Parce que nous n'avons pas encore eu l'occasion d'aller là-bas.
Bon, pour dans un centre de demandeurs d'asile, c'est pas une prison, parce qu'on vous autorise quand même à sortir pendant X période. C'est-à-dire, on vous dit, vous sortez à 10 heures, vous rentrez peut-être après 2 heures du temps. Et puis, on vous pose des questions en rapport avec votre demande d'asile, c'est-à-dire des questions en rapport avec ce que vous avez vécu au pays. Et eux, ils essaient en fait de faire des regroupements avec ce qu'eux connaissent de la situation du pays, et bien sûr de voir aussi si en fait concordance avec ce qu'eux connaissent du pays, ou bien s'il y a des contradictions ou s'il y a des paradoxes éventuels dans le récit que vous leur faites par rapport avec votre situation.
Voilà, Nicole Ngaka, à moins que vous ayez autre chose à ajouter, sinon on s'arrête là.
Oui, on peut s'arrêter là, afin de donner la parole à notre invité qui a beaucoup à dire, hein, certainement.
Voilà, merci Nicole et à très bientôt.
À bientôt. Okapi Mama sur Radio Okapi, c'est la vie à portée des romans, l'évolution des prix des marchés de tout le pays, les secrets de la bonne cuisine, la créativité de vos enfants, la voix des femmes, la santé de votre famille, les loisirs et les contes congolais. Okapi Mama au croisement de vos désirs d'avenir, Okapi Mama pour mieux vous servir. Du lundi au vendredi, de 12h à 15h pour le Kinshasa, de 13h à 16h par l'île. Au Capitaine, c'est ici pour les femmes.
Voilà, je l'ai dit tantôt, nous avons déjà en ligne Emmanuel Marénaz, porte-parole d'établissement vaudois d'accueil des migrants en Suisse. Emmanuel, rebonjour.
Bonjour.
Voilà, donc nous parlons avec vous la situation de Congolais vivant à Lausanne et notamment dans certains centres d'accueil où ils demandent peut-être d'asile. Vous pouvez peut-être nous faire une idée sur la vraie problématique de l'immigration en Suisse aujourd'hui.
Alors, il y a plusieurs manières en fait de vivre comme requérant d'asile en Suisse. Il est vrai que quand une personne demande l'asile en Suisse, elle doit s'adresser dans un centre d'enregistrement. Il y en a 5 dans le pays. Ils sont gérés par la Confédération, donc le pouvoir politique central de la Suisse. Les gens, ils passent quelques semaines. Tout à l'heure, Roger disait qu'il avait passé quelques jours et qu'on pouvait y rester jusqu'à un mois. En fait, on peut y rester jusqu'à 2 mois. Donc, dans ces centres d'enregistrement, les gens peuvent entrer et sortir, mais il y a quand même des heures limites pour entrer. Il y a des repas qui sont servis, qui sont très monotones. Et puis, les gens dorment dans des dortoirs à 16 personnes. Les hommes et les femmes sont séparés, les familles sont séparées, les enfants ne sont pas scolarisés. Et dans ces centres, il y a des auditions où les fonctionnaires de la Confédération enregistrent la demande d'asile, posent beaucoup de questions et vont décider s'ils entrent en matière ou n'entrent pas en matière sur la demande d'asile. Et puis quand les gens reçoivent une entrée en matière, ça veut dire qu'ils ont une procédure d'asile qui s'ouvre, à ce moment-là, ces personnes sont transférées dans les cantons qui ont à charge de les héberger. Et moi, mon travail, il se situe dans le canton Nouveau, donc qui reçoit 8,4% des requérants d'asile de toute la Suisse. Et dans les cantons, nous hébergeons les personnes qui sont en procédure d'asile. Alors, nous les hébergeons de deux manières, soit dans des foyers au départ, dans les premiers mois, c'est plutôt dans des foyers correctifs, où les personnes sont logées dans des chambres de deux. Et ensuite, les gens ont accès à un appartement. Par exemple, M. Lutamati, il a vécu dans un appartement après être passé dans un centre.
Oui, Emmanuel, dans quelles conditions le processus, si vous voulez, la procédure de demande d'asile est très accélérée?
Alors, elle s'est très accélérée pour des personnes qui ont une non-entrée en matière. Hein. En Suisse, on les appelle les NEM. Hein. C'est des gens qui ont été frappés de non-entrée en matière. Ça veut dire que dès leur demande d'asile, la Suisse a estimé qu'ils ne répondaient pas aux critères de réfugiés politiques, hein, parce qu'ils n'avaient pas réussi à prouver l'authenticité de leur récit. Ils n'arrivaient pas à apporter des preuves. Donc ils étaient persécutés de manière personnelle pour des raisons politiques, religieuses ou d'appartenance à un groupe social déterminé. Et ces personnes, il peut s'agir de personnes qui viennent de pays où les droits de l'homme sont considérés comme respectés, ou il peut s'agir de personnes qui viennent clairement pour des raisons économiques. Si les personnes disent clairement qu'elles viennent pour fuir la misère, la Suisse n'entrera pas en matière sur leur demande d'asile. Mais il y a aussi des personnes qui ont droit à une demande d'asile, à une procédure d'asile, et qui va durer plusieurs mois, voire même des fois plusieurs années, et au bout de cette procédure d'asile, ça va quand même être en refus. Donc les personnes sont déboutées, et là, la Suisse exige qu'elles rentrent chez elles. Et ça, c'est souvent très difficile pour des gens qui ont commencé à s'intégrer ici.
Oui, vous avez parlé de pays respectés. Est-ce que la RDC est comptée parmi les pays respectés?
Alors, le problème de la RDC, c'est qu'il y a encore beaucoup de problèmes de violence. Hein. Il y a des régions où il y a encore des guerres endémiques. Donc, on ne renvoie pour l'instant pas les personnes en RDC, mais je ne suis pas extrêmement compétente pour vous répondre vraiment précisément parce que c'est la Suisse au niveau de la Confédération qui s'occupe de ces décisions. Moi, au niveau du canton de Vaud, je ne couvre que l'aspect vraiment de l'hébergement, de l'accueil social des gens et c'est pas nous qui organisons les renvois. Donc, je ne suis pas tout à fait la meilleure personne pour vous répondre à ce sujet-là.
Oui, ben alors depuis le début de l'année, le lieu d'accueil VVSAN pour les requérants d'asile est devenu un centre d'aide d'urgence réservé aux migrants frappés de non-entrée en matière. Pourquoi ces changements?
D'accord. Alors, il y a eu un durcissement de la loi en Suisse qui a été voté il y a 2 ans par le peuple suisse. Vous savez qu'en Suisse, on a une démocratie semi-directe qui fait que les gens peuvent s'exprimer sur des lois qui sont adoptées par le Parlement suisse. Et le peuple a confirmé donc le durcissement de la loi sur l'asile. Et un des points de ce durcissement, c'est qu'une personne qui a été déboutée dans sa demande d'asile, donc qui a reçu une réponse négative, ou alors une personne qui a eu une non-entrée en matière, eh ben, ces personnes n'ont plus droit à l'aide ordinaire. Donc, par exemple, n'a plus droit à un appartement, n'a plus droit aux mêmes sommes d'argent que les autres requérants d'asile, et les personnes déboutées sont plutôt hébergées dans des centres collectifs d'aide d'urgence et reçoivent plutôt une assistance en nature, ça veut dire des repas qui sont servis sur place, sans possibilité de cuisiner soi-même ce qu'on veut manger. Donc c'est des conditions plus dures. Et tout à l'heure, votre collègue parlait de 100 personnes dans le canton de Vaud qui sont concernées. Alors effectivement, il y a 600 personnes déboutées qui ont demandé l'aide d'urgence dans le canton de Vaud. On n'a pas pu tout héberger en centre collectif, donc il y en a encore beaucoup qui sont dans des appartements. Il y en a environ la moitié qui sont dans des appartements. Sachant qu'il y a des personnes qui ont des certificats médicaux qui exigent que la personne ne soit pas hébergée en structure collective. Et puis, il y a aussi des personnes qui ont entamé une procédure de régularisation parce qu'au bout de 5 ans, la loi permet à des personnes bien intégrées de finalement obtenir un statut stable en Suisse. Donc ce n'est pas l'asile politique, ce n'est pas un statut de réfugié, mais c'est quand même une autorisation de séjour. Donc toutes les personnes qui ont demandé cette régularisation parce qu'elles sont là depuis plus que 5 ans, on les a laissées dans les appartements en attendant qu'elles obtiennent la réponse de Berne.
Oui, juste pour nous faire une idée très précise, quel est le délai imparti d'accueil donc, dans ces différents centres d'asile?
Alors, dans les centres d'enregistrement de la Confédération, donc qui sont les points d'entrée pour demander l'asile, le séjour maximum est 2 mois. Après, les gens doivent être transférés dans les cantons. Et dans les cantons, ça dépend de la procédure d'asile qui n'est pas maîtrisée par les cantons. La procédure d'asile, c'est la Confédération qui la mène, donc elle convoque les gens pour une deuxième, voire une troisième audition. Et la réponse peut intervenir dans les semaines, dans les mois, ou parfois dans les années qui viennent. Donc c'est très variable. Nous, ce qu'on fait au niveau de l'accueil, c'est qu'on essaie de laisser les gens au maximum 6 mois dans un centre collectif et au bout de 6 mois, on essaie de transférer un appartement. Par contre, si la personne est déboutée ou frappée de non-entrée en matière, là, elle retombe dans un centre collectif, pour autant qu'il n'y ait pas un des critères que je mentionnais tout à l'heure qui empêche son transfert.
Oui, après 3 auditions, si les dossiers d'un requérant demeurent toujours irrécevables, qu'est-ce qui se passe après?
Eh bien, la personne, en fait, c'est pas qu'il est recevable, c'est que la Confédération prend une décision sur la demande d'asile. Alors, si au bout de trois auditions, les éléments ne sont pas suffisants, ben, la Suisse va enquêter. Alors, encore une fois, c'est pas nous qui nous occupons de cet aspect-là de la procédure, mais je sais que, voilà, il y a toutes sortes de contacts qui sont faits avec les ambassades et les consulats des pays, dans les pays d'origine. Il y a des enquêtes qui sont faites. Les requérants peuvent en tout temps transférer de nouvelles preuves à la Confédération. Et puis, la réponse arrive sous forme d'une lettre qui dit à la personne, voilà, vous avez obtenu l'asile ou vous n'avez pas obtenu l'asile, et les personnes ont 30 jours pour faire recours sur cette décision. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui attendent une réponse à leur recours, qui peut aussi de nouveau prendre plusieurs mois, voire des fois plusieurs années.
Oui, alors nous rappelons, Emmanuel Marindas, que vous êtes porte-parole d'établissement vaudois d'accueil des migrants en Suisse. On aimerait avoir des précisions, parce qu'il y a bon nombre de Congolais qui vous suivent. Nous savons que pas mal souhaitent émigrer pour retrouver des conditions meilleures ailleurs. Alors, est-ce que au niveau de l'établissement vaudois d'accueil des migrants, il y a un grand nombre de Congolais qui sont hébergés là-bas?
Alors, j'aurais dû me préparer un peu mieux parce que je ne pensais pas que vous me posiez cette question. On a des Congolais, bien sûr. Ce ne sont pas c'est pas l'origine majoritaire. En ce moment, les gens qui arrivent en Suisse sont beaucoup des Érythréens, beaucoup des Somaliens. Les Congolais sont vraiment je peux vous dire, je vais juste essayer de retrouver rapidement les statistiques. Je vais pouvoir vous dire exactement combien de Congolais il y a en Suisse.
Mais
c'est plus intéressant de parler pour la Suisse, que pour.
Ils sont pas en grand nombre.
Pour le canton de Vaud.
Oui,
ils sont pas en grand nombre. Je vais essayer de vous donner ça.
Oui, tout à l'heure.
Certainement. Je vais vous poser une autre question.
Oui,
voilà.
Tout à l'heure. Mais parlons des conditions. Est-ce que les conditions d'accueil sont acceptables dans ces centres d'établissement?
Bon, c'est pas des conditions idéales, dans le sens qu'on est toujours mieux dans un appartement que dans un centre collectif, mais c'est quand même des conditions acceptables, dans le sens qu'il y a des sanitaires, c'est chauffé, je veux dire, nous, quand on était enfant, on partait en colonie de vacances, ben c'est un peu le même genre de conditions. Hein. Ça n'a rien de d'inhumain.
Oui, alors est-ce qu'il arrive que ceux qui sont hébergés dans ces centres d'accueil puissent les quitter brusquement parce que vous leur donnez quand même des droits de sortie? Alors, est-ce qu'il arrive que ces gens ne rentrent pas? Est-ce qu'il arrive souvent?
Alors, il n'y a que dans les centres d'enregistrement de la Confédération que les gens ont des heures de sortie et d'entrée. Hein. Chez nous, dans les cantons, les gens peuvent entrer et sortir comme ils veulent. Il n'y a pas du tout de couvre-feu. Les gens sont libres d'aller venir. Ils peuvent sortir à 2h du matin, rentrer à 4h du matin s'ils veulent. Il n'y a aucun problème par rapport à ça.
On a quand même le témoignage d'une personne qui a préféré garder l'anonymat. Et elle nous a dit qu'on est ici comme en prison. Des animaux sont mieux traités que nous. Arrivée en Suisse il y a 8 ans alors qu'elle avait 14 ans, les méandres des procédures...
Je la connais, oui, je vois de qui il s'agit, je vois très bien l'état Beauvais, le centre de Beauvais.
Oui, c'est
une histoire très tragique, effectivement. C'est une jeune fille qui est arrivée ici mineure, elle a été à l'école en Suisse et elle se retrouve avec un statut de déboutée, avec vraiment très peu pour vivre. Alors effectivement, c'est les conditions, je pense que c'est pas tellement les conditions matérielles qui sont indignes, c'est plutôt la précarité du statut, le fait qu'elles soient en situation irrégulière en Suisse après toutes ces années, et je pense que elle, son vrai combat, c'est d'obtenir un statut stable, de pouvoir travailler en Suisse légalement, et je pense que le fait d'habiter dans une chambre avec une autre personne, elle a une salle de bain dans sa chambre, elle a des repas chauds qui lui sont servis tous les jours, sincèrement, moi j'ai été beaucoup en Afrique, je sais qu'il y a des gens qui vivent dans une beaucoup plus grande misère dans sur votre continent.
Oui, mais elle aimerait retourner, mais malheureusement, elle craint d'être arrêtée. C'est ça aussi le grand problème. Pourquoi ça traîne énormément? Pourquoi les formalités administratives prennent autant de temps?
Alors, les formalités administratives pour la Suisse, elles sont terminées. Dans son cas, la Suisse a statué sur sa demande d'asile. Elle l'a déboutée dans sa demande d'asile. Elle a estimé que cette personne n'était pas qualifiée pour obtenir le statut de réfugié. Et ce qu'il faut vraiment passer comme message dans votre pays, c'est que les gens qui viennent en Suisse pour des raisons économiques n'auront aucune chance ici. Et c'est que les gens qui ont vraiment subi une persécution pour des raisons politiques qui peuvent espérer obtenir l'asile. Donc, il faut décourager les aventuriers, entre guillemets, d'essayer de venir pour une vie meilleure parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Et en Europe, en ce moment, tous les pays ont fermé leurs frontières. Donc, c'est extrêmement difficile de venir.
Oui, tout à fait. Emmanuel Marienlaz, c'est toujours dans cet esprit-là qu'il y a un auditeur, parce que nous recevons des réactions qui nous viennent de partout sur notre site, action@radiocapi.net, et puis à travers le pays en RDC, les gens qui vous suivent. Et nous rappelons d'ailleurs le numéro, c'est le 081-070-2050. Il y a une réaction qui remonte peut-être dans le même sens que vous proposez tout à l'heure. Il y a Papi Yola Albert à Kananga, là nous sommes au Kasaï occidental. Il vous pose la question, c'est juste pour obtenir de vous un conseil. Quel conseil donnez-vous, que vous pouvez prodiguer aux Africains en général et aux Congolais de la RDC en particulier qui préfèrent aller en Suisse aujourd'hui?
Moi, le conseil que je leur donne, c'est plutôt d'essayer de faire quelque chose pour améliorer leur propre pays que de venir ici, parce que c'est vrai que c'est extrêmement dur ici. Moi, je pense qu'il y a un gros tabou, et les Africains qui partent en Europe n'osent pas forcément dire à leurs proches que ça marche pas très bien pour eux ici. Parce qu'il y a une espèce de mythe de l'Europe riche, d'un niveau de vie matériel très élevé. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a beaucoup de requérants d'asile, d'exilés qui vivent dans une grande précarité. précarité. Alors c'est peut-être qu'ils mangent à leur faim tous les jours, mais ils ne peuvent pas envoyer d'argent au pays parce que c'est vraiment, on leur donne très peu ici pour vivre et la vie est très chère ici. Donc vraiment, à moins que vous craigniez pour votre vie, à moins que vous soyez menacé par les autorités ou par vraiment, si c'est juste pour des raisons de mieux vivre, vous avez vraiment meilleur temps d'essayer de trouver du travail dans votre pays, de développer votre pays plutôt que de venir en Europe.
Voilà, donc pour demander l'asile, c'est tout un problème. Et donc, on va encore plus loin en disant que la Suisse, c'est le seul pays qui a des lois autour des demandes d'asile, des lois qui sont trop restrictives. Et vous partagez cet avis?
Alors, la Suisse a durci sa loi sur l'asile, mais je ne crois pas que la Suisse soit la plus restrictive. Je pense que, s'agissant des procédures d'asile, c'est vrai qu'il y a beaucoup de vérifications qui sont faites, donc c'est pas facile d'obtenir l'asile politique. Par contre, au niveau des conditions d'accueil, je crois que la Suisse reste quand même un pays qui n'a pas à rougir par rapport à d'autres pays. Quand je vois en France, comme les autorités accueillent leurs requérants d'asile, franchement, ils n'ont pas un système aussi institutionnalisé que nous. Nous, on a dans tous les cantons des centres d'hébergement qui sont vraiment dédiés aux requérants d'asile. On leur trouve des appartements. En France, on compte beaucoup plus sur les œuvres d'entraide, donc sur des secteurs privés. Et ça dépend beaucoup plus de la générosité des sociétés locales.
Oui, il y a encore une autre réaction de Lukusa Jean Lucas à Mujimai. Il revient sur ce que vous avez dit peut-être en début de votre intervention. Que signifie demande d'asile et comment les faire? Parce que peut-être il pourra avoir une idée demain ou après-demain, dans les jours à venir, de débarquer en Suisse, et il va commencer par où?
Alors, les personnes qui demandent l'asile, elles fuient une persécution dans leur pays d'origine pour des raisons politiques, religieuses, ou pour une appartenance à un groupe social déterminé. Ça peut être un syndicat, ou ça peut être une minorité sexuelle qui est discriminée, je pense notamment aux homosexuels dans certains pays. Voilà, donc il faut vraiment avoir été discriminé, ou alors pour des raisons ethniques, si vraiment vous avez, mené un combat parce que vous êtes un leader dans un groupe ethnique et que vous avez eu des problèmes avec les autorités. Et pour demander l'asile, il faut donc se présenter dans un des 5 centres d'enregistrement de Suisse. Il y en a un à Valorbe, dans le canton de Vaud, il y en a un à Chiasso, qui est dans le canton du Tessin, au sud de la Suisse. Il y en a un à Bâle, qui est dans le nord de la Suisse, et il y en a encore 2 qui sont à Krotzingen et à Altstetten, qui sont dans l'est de la Suisse. Voilà, il peut déposer cette demande d'asile dans ce centre d'enregistrement, et à partir de là, les autorités ou les procédures qui va prendre, comme je disais tout à l'heure, des fois quelques jours, mais des fois quelques années.
Alors, ça, c'était alors une source indépendante, que quand il s'agit des gays, des personnes gays, des personnes homo, le processus est très accéléré, il n'y a pas trop de restrictions. Est-ce vrai, madame?
J'ai pas compris la question.
Donc, quand il s'agit des personnes homosexuelles qui demandent l'asile, les choses ne prennent pas, ça va très vite.
Alors, pas forcément. Il faut vraiment que ce soit que les gens viennent d'un pays où les gays sont vraiment persécutés. Alors, je ne sais pas comment la situation en RDC. Je sais qu'en Égypte, la situation n'est pas facile. En Iran, elle n'est pas facile du tout. Et pourtant, il y a des Iraniens qui ont été déboutés, alors même qu'ils étaient gays. Donc, ce n'est pas un motif d'asile qui est très sûr. Même si la loi dit qu'on doit protéger les personnes pour leur appartenance à un groupe social déterminé, dans les faits, il faut vraiment... Il ne suffit pas d'être gay pour obtenir l'asile. Il faut vraiment avoir eu des problèmes très, très graves, avoir été torturé, avoir été emprisonné pour ces raisons-là. Ce qui est rarement le cas. Les autorités des pays d'origine trouvent souvent des astuces pour persécuter les gays qui sont plus difficiles.
Emmanuel Marindez, nous rappelons que vous êtes le porte-parole d'établissement vaudois d'accueil des migrants en Suisse. Merci d'avoir été des nôtres et surtout merci d'avoir apporté tout cet éclairage au cours de cette émission, de cet entretien, et à la prochaine.
Je vous en prie, au revoir.